ça peut pas être une défaite qui passe aussi mieux que ça. Je trouve que... Parce que
je te trouve très philosophe dans ta façon d'aborder cette défaite-là. D'après moi, t'aurais fait du bien dans le vestiaire du Canada après la prolongation hier.
Ouais, ben en même temps, il y avait tout un peu la même lecture que moi. Là, je veux dire, ils en ont manqué des chances. Ils ont super bien joué. John Cooper l'a dit à tous les gars qu'il ne pouvait pas leur en demander plus que
le
ça.
Le Canada a dominé les États-Unis mur à mur.
Mais qu'est-ce qui se passait quand ils se ramassaient devant le but?
Connor à l'époque arrêtait.
Oui, il arrêtait.
Au-delà de ça, dirait qu'il venait mousse bol, comme si tout d'un coup il savait plus jouer direct devant le net.
Audrey Pinchot, sportive de salon.
Ben, c'est parce que c'est sûr que l'échappée de McDavid apparaissait mal. C'était pas son genre là, que de se poser autant de questions en échappée puis pas la mettre dedans en deuxième période. Mais tu sais, je veux dire, l'échappée de McDavid, l'échappée de Celebrini, la chance manquée de Devontae, ça c'est le. T'sais, on parle du golden goal de Sidney Crosby puis de celui de Jack Hughes, mais il y a eu le golden save puis c'était ça. Là.
Oh,
l'arrêt
oui, oui, oui.
Du bout de la palette de la box, ça n'avait pas de sens. L'arrêt de McAvoy aussi parce que...
Il est allé gauler en arrière
oui,
du goaler.
C'est celui-là, à la reprise, on l'a vu qu'elle s'en allait dedans aussi avant qu'il y a pousse avec son chest. Puis le lancer raté de McKinnon, je veux dire, il y a eu tout là-dedans. Là. Fait que c'était, ça aurait pu facilement finir 5-1. C'était vraiment... Je sais pas quoi dire, les planètes sont alignées justement là qu'ils disent, mais les planètes sont alignées pour les Américains. Puis ça c'est le côté que je trouve que ça passe bien parce que ils ont pas été cocky les Américains. J'ai pas l'impression.
Bon, le président des États-Unis puis le chef du FBI, ils ont été cocky puis colons là.
Ben mais... ouais. Ben,
ça représente pas les joueurs qui jouaient pour.
C'était plus envers les Américains. C'est plus pour parler aux joueurs américains puis tout ça. Mais je veux dire le fait la célébration avec le chandail de Johnny Gaudreau.
Écoute, c'était de toute beauté. Moi, c'est là que j'ai arrêté de bougonner.
C'est ça.
J'ai fait OK, on a perdu ce match là. Le Canada a perdu ce match-là, mais ça a créé ce moment-là qui est un beau moment pour les amateurs de hockey.
Puis il avait essayé l'an passé de créer ce moment-là parce que il y avait aussi le chandail de Johnny Gaudreau aux Quatre Nations, puis il utilisait ça comme motivation, mais ça n'a pas été assez. Ils l'ont ramené cette année. Puis là, c'était ça. Puis c'était l'anniversaire en plus du petit Gaudreau, celui finalement qui n'aura jamais connu son père. L'anniversaire, en tout cas, la même date pour le Miracle on Ice en 1980. Il y avait comme une coupe de signaux un peu qui faisait en sorte que ça rendait le tout un petit peu plus dans le genre « Ben, cette fois-là, c'est correct que les Américains l'aillent, mais pas plus que ça.
Mm-hmm. »
Puis surtout du fait qu'on a été la meilleure équipe. Je veux dire, moi, s'il y a quelque chose que j'ai appris du sport puis d'avoir coaché, en début de saison, puis je te l'ai déjà dit, il va y avoir des matchs qu'on va mal jouer puis on va avoir gagné puis je vais être fâché. Puis il va y avoir des matchs où on va bien jouer, mais on va avoir perdu, puis je vais être content pareil parce qu'on travaille sur le positif.
J'ai hâte de voir la suite pour Connor Hellebuyck parce que t'as comme deux façons de réagir. Hein. Moi, j'ai l'impression que si j'étais un athlète, déjà, ça prend énormément d'imagination. Mais si je m'en vais gagner une médaille d'or en gaulant sa tête, je vais avoir de la misère à me remettre dedans après ça avec mon chandail des Jets de Winnipeg puis finir la saison, tu sais.
C'est le même scénario pour Hellebuyck et Binnington.
Oui,
les deux ont été sensationnels. Et les deux retournent dans une équipe de la LNH atroce qui est à l'avant-dernier rang du classement.
C'est vrai.
Fait que là, il va falloir qu'ils... Fait que c'est pour ça que la question que je me pose, c'est justement là, le trade freeze, là, le gel des transactions va être levé bientôt. Ça s'en vient, la période de la date limite des transactions. Fait que est-ce que ces deux joueurs qui ont un contrat qu'on peut négocier avec puis qu'il y a des équipes de tête qui peuvent se dire « Hey, c'est-tu quoi? Moi, j'ai besoin d'un Jordan Binnington en série. J'ai besoin d'un Connor Hellebuyck en série parce qu'ils sont clutch. » En tout cas, Binnington plus encore. Hellebuyck, c'est la première fois qu'il l'est, mais il a tellement été puis on sait que c'est un bon gardien en général. Est-ce que c'est quelque chose qui se peut de sortir ces deux gars-là de leur équipe respective, puis je sais qu'on a parlé du Canadien beaucoup avec leurs problèmes de couleur, là, j'avance pas que ce serait le Canadien, mais je serais pas surpris qu'il y ait quelqu'un qui vienne se demander ça coûte combien d'avoir Binnington dans son équipe, parce que c'est tout un gamer.
Maintenant, la question qui tue ou la question qui rend fru, je le sais pas, on est dans le top de sport avec Gab Marino. Connor McDavid, à la fin de son parcours, là, ça fait deux fois qu'il sera en finale de la Coupe Stanley, gagne pas la Coupe Stanley. Gagne pas l'or cette année. Puis là, il y en a qui ont posé plein de questions. Y a-tu posé le bon geste, le mauvais geste? Y a-tu voulu trop en faire? Et ainsi de suite. Au-delà de tout ça, si à la fin du parcours de Connor McDavid, il n'a pas gagné de Coupe Stanley et il n'a pas ramené l'or au Canada, est-ce qu'il fait partie des plus grands de ce sport-là quand même?
Oui.
La réponse, c'est non.
Oui, c'est oui. Voyons, Denis, esprit.
Pourquoi c'est non?
Faut que ça fasse partie de tes hauts faits d'armes pour être sur le Mont Rushmore du hockey. Wayne Gretzky a gagné des Coupes Stanley dans deux équipes différentes. Trois équipes différentes.
Je peux-tu donner mon pic de fille qui ne connaît pas le hockey? Parce que je connais pas ces statistiques-là, puis je peux même pas m'imposer dans cette discussion-là, dans le fond. Mais moi, ce que je retiens, c'est que si on est capable de dire pour une game comme celle d'hier matin, que le Canada a clairement mieux joué que les États-Unis, même si au pointage, ils ont perdu, je pense que tu es capable de reconnaître un grand joueur d'hockey, même s'il n'a pas nécessairement gagné avec le Canada et ou gagné une Coupe Stanley.
Un grand joueur de hockey sans l'ombre d'un doute. Mais pour faire partie de l'élite, avec un E majuscule.
C'est dégueu ce que tu dis.
Je vois un cran. Je suis obligé de te dire que je vois un cran de différence.
Écoute, le truc de la Coupe Stanley, c'est pas la première fois qu'on l'entend, celle-là. Tu sais, ben Carey Price n'a pas gagné la Coupe Stanley. L'affaire de la médaille d'or olympique, je l'enlève complètement du calcul parce qu'il y a beaucoup de ça qui n'est pas tant de leur ressort. Si la LNH était aux Jeux olympiques depuis 2014, il y aurait sa médaille d'or olympique. Puis, probablement qu'il va l'avoir en 2030, je ne sais pas. Mais toi, tu t'avances le fait qu'on ne l'aurait peut-être pas, c'est possible. Moi, je pense qu'il s'est fait enlever deux opportunités olympiques, que c'était pas de sa faute. Et je considère que ça, c'est de valeur, puis qu'il y aurait probablement son or olympique.
De toute façon, tu vois ce qui arrive, là, il aurait choqué.
je veux dire, c'est drôle parce que j'écoutais la game avec mon père, puis il disait ça aussi. Ouais, McDavid, on dirait qu'on le voit pas. Non, c'est sûr, on le voit pas, mais en 5 games, il a 13 points, puis il est à 2 points de battre le record de Sidney Crosby, tu sais, dans un chandail du Canada. C'est juste que c'est un joueur dominant qui fait beaucoup plus de mentions d'aide que de buts en général aussi. Puis, tu sais, on lui a reproché de pas lancer assez souvent, mais là, à la fin de la période en overtime, quand il arrive pour essayer justement d'être selfish puis de lancer, il se la fait enlever puis ça donne le résultat qu'on connaît. Moi, je pense au contraire que c'est un des plus grands, puis je remets même pas en doute son leadership puis le fait que ce soit un joueur générationnel. Puis parce que il y a pas la Coupe Stanley, mais il a amené les Oilers deux fois en Coupe en finale.
Ouais.
Sans McDavid, les Oilers vont. Ils passent même pas les Kings, je pense.
Mais on dirait que c'est encore pire, justement. Parce que t'amènes tes clubs en finale. Mais quand vient le temps de livrer, puis tu sais, Connor à l'époque avait cette réputation-là avant hier. T'es un goaler incroyable, mais quand ça compte, tu livres pas. Puis on pourrait s'obstiner, là, Connor McDavid, de ne pas jouer un mauvais match, loin de là. T'sais, on n'arrête pas de le dire. Le Canada était la meilleure équipe sur la glace. Ils ont eu le chance de marquer, et ainsi de suite. Je veux dire, Brad Marchand a eu de l'air fou dans ce game-là.
Oui.
Pas Connor McDavid. T'sais, tu comprends la distinction entre les deux.
Mais de toute façon, dans ma tête, il n'y a pas un scénario où Connor McDavid finit sa carrière sans Coupe Stanley ou médaille d'or olympique. Dans ma tête, c'est sûr que c'est réglé. Ça va se régler un jour. Il est trop dominant pour que ça ne survienne pas. Je veux dire, c'était la même affaire avec Raymond Bourque. Puis il a eu sa Coupe Stanley finalement en 2001. Tu sais, parce que c'est un joueur que ça y en prenait une. Puis Connor McDavid, il va en avoir une. Je suis pas inquiet.
Là, c'est l'heure des bilans. D'abord aux Olympiques, le Canada, 21 médailles, termine au 11e rang des nations classement. On s'attendait un petit peu plus, hein?
Ouais, c'était un 27 à 30 qu'on disait. Ceci étant dit, c'est comme si ça avait du bon, j'imagine. Le fait, tu sais, avoir été à 26 médailles ou 25, ça aurait été plus grave que d'être à 21, je pense. Mm. 21, t'es trop loin de l'objectif pour que les décideurs restent les bras croisés. Et puis, tu sais, Dominique Gauthier a publié justement un article là-dessus là, à 14h là, sur le financement dont on parle beaucoup.
Ouais.
Tu sais, en gros, là, pour résumer grossièrement, c'est qu'on a rajouté du financement parce que Vancouver, c'était au Canada en 2010, puis depuis ce temps-là, ça stalle. Mm. Fait que c'est sûr qu'en 16 ans, il y a de l'inflation qui n'a pas suivi, puis il y a des salaires qui se perdent. Fait que c'est le résultat de l'argent, puis on le voit avec l'Italie, ce qu'ils ont réussi à faire cette année, que d'habitude, ils ne sont pas pantoute dans le top des médailles, mais vu que c'était chez eux, ils ont mis de l'argent dans les 10 dernières années pour dire « on va performer à Milan ». Fait que l'argent fait la différence, malheureusement. On est un pays... Je sais bien qu'on n'arrête pas de chialer sur le prix de tout, mais on est un pays riche pareil, là, tu sais. Puis que le Canada soit pas fort l'été, j'en ai rien à battre. Que le Canada soit pas fort l'hiver, ça commence à venir nous chercher.
C'est ce qui distingue notre pays des autres. T'sais, notre force est supposée d'être là. La Norvège, ils sentir bien.
Exact.
Eux autres, là, t'sais.
Fait que je pense que Mark Carney a cette cette attitude-là patriotiste de dire on est une nation nordique. J'ai l'impression qu'il va changer d'idée, mais les signaux sont pas clairs, mais j'ai comme confiance que ça s'en vient, un financement plus important.
Parlant de bilan, c'était la fin aussi en fin de semaine du tournoi Pee-Wee, puis malheureusement, c'est pas juste des bons événements qui retiennent l'attention, ouais. Hein. Puis là, il y a des équipes qui vont être barrées, qui ne reviendront plus au
encore?
Tournoi Pee-Wee parce qu'il y a eu des bagarres. Puis moi, j'en ai vu une. Là. J'ai vu un tape qui s'est promené d'une bagarre générale. Uh-huh. C'est dur de croire qu'il y a autant de violence dans des flots de cet âge-là.
C'est fou, hein?
Parce que c'est une des bagarres générales. Moi, celle qui implique le Kazakhstan qui ne reviendra plus.
Ouais.
Là, j'ai rarement vu des trucs aussi violents sur une patinoire.
C'est spécial, hein? Mais ça, c'est encore une fois... l'article puis la réaction aujourd'hui, c'est ce qui fait la force du tournoi. Puis oui, la réaction de Patrick Dome.
Ouais.
Et à quel point cette personne-là tient le tournoi et est un gars profondément juste. Parce que, je veux dire, on comprend tous que ça n'a pas de bon sens, puis il se fait challenger. Il n'y a pas personne qui se fait plus challenger dans la vie que Patrick Dome pour toutes les décisions qu'il prend. Dans des courriels qu'il reçoit, mm-hmm. sûrement des courriels de marde de n'importe quel parent de n'importe où dans le monde, là, c'est lui qui les reçoit tous.
Écoute, parce que même des parents qui sont là, les flots jouent
débile.
Un match, ça se bat, le flot est suspendu pour le
exact.
Reste du tournoi. Tu t'en vas voir Patrick Dome, dis hey, nous autres, on vient de Philadelphie, on vient de l'Australie, on vient de l'Ouganda, puis mon flot jouera pas une Christy de game au centre Vidéotron. C'est quoi cette affaire-là?
C'était donc un match entre le Kazakhstan, comme tu dis, et Detroit Bell Tire, hors concours aux trois glaces, ça a brassé, ça s'est battu.
L'enfer.
Il y a eu des suspensions de Detroit Bell Tire tellement, puis c'était avant le tournoi qu'il y a un gars dans cette équipe-là, un jeune, qui a pas pu jouer un match au vrai tournoi parce qu'il a été suspendu avant que le tournoi commence, l'équipe a été éliminée après. Fait que il y a justement un parent qui répond en disant « ça n'a pas de bon sens qu'il soit suspendu. Hey, c'est parce qu'il a donné 14 coups de poing à un autre. C'est sûr qu'il va être suspendu. » Il met ses culottes et il envoie un exemple aussi pour tous les autres. Au même titre qu'il avait envoyé l'exemple à l'équipe russe.
Ce qui s'est
Russes avaient été suspendus il y a quelques années.
Ce qui s'est passé sur la patinoire, là, ils n'ont pas donné de chance d'interprétation mm-hmm. À la direction du tournoi. Puis oui,
qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais, c'est complètement débile. Un kid qui donne 14 coups de poing à un autre kid. Des kids qui se font séparer par des arbitres puis qui vont se reprendre plus loin à grands coups de pioche d'en face. Je veux dire, c'est pas pour rien là, que ces images-là ont été enlevées rapidement des médias sociaux. C'est pas beau.
C'est
pas beau.
Ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres aussi parce qu'il y a Lethbridge aussi qui a vu trois joueurs suspendus, l'entraîneur-chef aussi, contre Riga, qui est l'équipe de la Lettonie. Fait que le résultat de tout ça, c'est que... Puis l'affaire, c'est qu'Astana a gagné le tournoi. Fait que ça aussi, c'est un malaise. Malgré les embûches, puis dans le fond, ceux qui ne sont pas battus dans l'équipe du Kazakhstan, à un moment donné,
ils n'ont rien à voir
mieux pour eux.
Mm-hmm.
Le problème, c'est que ceux qui pensaient au Kazakhstan venir l'an prochain, ben ils viendront pas
non.
à cause des gestes d'un prédécesseur. Puis je comprends l'idée de suspendre l'équipe pour envoyer un message à tout le monde globalement, mais c'est sûr que le petit gars kazakh qui est à Tôme, lui, il a vraiment rien à voir là-dedans, puis il se fait enlever une opportunité.
Ouais.
Mais le tournoi est tellement populaire d'à travers le monde. T'as quoi, t'as 117 équipes à peu près, là? Puis t'en refuses 300 par année. Il y a pas. C'est la punition. C'est plate que c'est le jeune atome qui le vive, mais t'as aussi le coach du Kazakhstan, le directeur gérant,
c'est
celui
ça.
Qui est décideur là-bas. Ils vont avoir des. C'est ça qui est plate.
C'est une cruelle leçon de vie, mais en même temps, ça te dit. Il y a des adultes qui se comportent mal dans des situations.
Ouais.
Il y a des coéquipiers qui se comportent mal dans une situation. Puis des fois, ça va avoir des conséquences sur ce qui va arriver avec toi. Conséquences injustes des fois, mais ça fait partie de la vie.
Puis je comprends que c'est les jeunes qui sont suspendus, évidemment, mais j'ai pas l'impression qu'il y a une équipe de hockey Pee-Wee qui est, mettons, bien coachée ou bien menée par des adultes responsables qui arriverait à ce résultat-là. Je pense que...
Tu penses qu'ils sont mal encadrés?
Ben, oui, c'est ça, je pense, dans le fond.
Moi aussi. Non, mais je le vois.
Surtout dans
le Pee-Wee.
À un moment donné, tu sais, quand c'est rendu midget junior, là, c'est vrai que ça se peut qu'il y ait des petites têtes enflées, puis que le coach peut faire ce qu'il veut, mais à un moment donné, ça va être tough. Dans le cas de l'âge Pee-Wee, une bonne organisation, ça n'arrive pas, ces affaires-là.
Ouais.
Fait que je pense qu'il y a ça.
Peut-être parler
mais
de la deuxième.
Ça,
oui,
le bilan,
du côté positif.
Le bilan après ça. Il n'a pas neigé de tout le tournoi. Puis oui, ça s'est quand même capoté. Je pense que ça a aidé. Puis c'est plate pour l'espèce d'attrait de la neige. T'sais. Je pense que les petits Mexicains auraient aimé ça voir de la neige là, qui tombe, mais ils n'ont pas vu.
Ça sera pour une autre fois.
Ça, c'est plate. mais 225 000 spectateurs. Honnêtement, j'aurais pas pensé qu'on aurait eu autant cette année. par le fait que les Olympiques étaient en même temps.
Ben oui.
Que le dimanche, hier, la finale, il y avait vraiment peu d'équipes de Québec. En tout cas, pas les petits remparts puis les petits nordiques qui ont été éliminés samedi. Tu te rendras jamais aux 236 000, qui est l'année record, parce que les gens allaient là pour voir le Centre Vidéotron en 2016.
C'est vrai, ben oui, t'as raison.
Ça, tu te rendras pas. Mais d'avoir la deuxième meilleure assistance de l'histoire, c'est absolument
bravo.
Magique.
Focusons sur le positif.
Ouais, très bon pour ça aussi. Puis c'est ça, tu sais, l'équipe thaïlandaise qui était là, j'ai hâte de voir quel autre pays on va inventer l'an prochain pour venir jouer au tournoi, puis oui.
J'ai trouvé ça malade de mon côté, puis merci à ceux qui ont permis cette opportunité-là. Mais mon grand garçon qui joue dans le B a joué contre une équipe de l'Australie
oui.
qui jouait dans le double lettre, mais il y avait de la misère.
Oui.
Il n'était pas capable de suivre.
Ils se sont fait varloper.
Finalement, le tournoi a créé cette opportunité-là. Ça a créé un super match de 4 à 4.
Wow.
Ça nous a permis de vivre un peu « on the side ». Un petit peu du tournoi, puis oui, puis il y a des jeunes qui sont partis avec le pin, puis plein de souvenirs. Ça, c'est
vraiment fun.
C'est des opportunités extraordinaires. Bon, là, on va péter à ballon. Les Olympiques sont finis, les Pee-wee aussi, puis le Canadien joue contre les Islanders jeudi.
Ben, les Islanders, c'est parce que ça sonne moins beau, les Islanders, de l'historique, là, quand même, mais il y a Patrick Roy
ben
dans
oui,
cette équipe-là,
ben oui, ben
puis il
oui.
y a Matthew Schaefer, le défenseur, qui aurait-tu dû faire partie d'équipe Canada cette année? Tu sais, ça va être le grand débat, puis après ça, le Canadien revient avec Suzuki, puis. Ça va revenir à la petite routine.
Ben oui, on va retomber dedans quand même assez rapidement. Merci Gab.
Merci.
Gab Marino avec le top de sport de ce lundi 4h15. Vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour.
Gravel dans le retour.
Oui, c'est vrai.
Boulevard
102.1.
(16h21), bienvenue chez vous à Boulevard 102.1. Bienvenue chez nous dans le retour. Bon lundi, bon début de semaine, bon lendemain de veille. Pour plusieurs, je présume que c'est un dimanche qui s'est peut-être étiré ou un dimanche qui a été coupé court après les premières bières du dimanche matin. Pour plusieurs, en tout cas, c'était le fun de voir vos photos de breuvage et de setup. Alors qu'on était prêt pour encourager Team Canada d'un océan à l'autre, ça n'a pas fini comme on voulait, mais ça a été une game quand même mémorable. On va s'en souvenir longtemps et ça risque de faire jaser encore longtemps. Aujourd'hui, ben, le mercure a commencé sa chute. On a moins 5 degrés à Québec, minimum de moins 12 pour ce soir et cette nuit. Demain, la journée est un copier-coller d'aujourd'hui, le maximum de moins 6, refroidissement éolien, à moins 13 en après-midi, moins 18 en matinée. On prévoit de la neige intermittente mercredi avec un maximum de moins 7 et des températures agréables aussi en vue pour terminer le mois de février. Maximum de 0 prévu pour vendredi et même plus 2 degrés samedi le 28. Mon nom est Denis Gravel. Gab Marino est avec nous autres en remplacement de Véro. Audrey est là aussi. Comment ça se passe sur la route?
Ça commence à être un peu plus complexe, mais encore là, c'est léger pour un lundi. Il y a des problèmes sur la capitale direction est entre, je vous dirais, Robert Bourassa et Laurentienne, ouest, hauteur Laurentienne. Si vous êtes sur Robert Bourassa, direction nord, ça se passe surtout entre Charest et la capitale. L'entrée des ponts, un peu difficile. Je vous dirais qu'à partir de... sur Henri IV, en fait, à partir de chemin Sainte-Foy, la direction sud, jusqu'à l'entrée du pont La Porte, c'est toujours présent. C'est lourd aussi dans le coin de Val-Bélair à la hauteur de l'avenue industrielle si vous êtes sur Henri IV Nord. Et route de Fossambeau entre Désérable et de la Jacques-Cartier, ça s'est installé dans les dernières minutes. Pour ce qui est de la Rive-Sud, par exemple, ça va super bien. Évidemment, vous voyez autre chose, 88-971-1021 texto.
Évidemment, tout ce qui se passe du côté du Mexique retient énormément l'attention. Gab, tu nous disais dans les nouvelles tantôt que des vols allaient reprendre dès demain.
À Transat, qui veut reprendre ses opérations à l'aéroport de Puerto Vallarta, parce qu'il n'y a eu aucun incident lié à des blocages routiers dans les dernières 24 heures, donc à cet endroit-là. Évidemment, c'était le point chaud, là, Puerto Vallarta, donc ça commence tranquillement. On sent que la situation se calme de plus en plus, mais...
Ça a brassé pas ouais. mal. Puis on le voit, tout ça part évidemment de l'arrestation et finalement de la mort de El Mancho, qui était un des grands patrons et des grands dirigeants des cartels de drogue mexicains. Puis je m'avancerai pas plus loin pour essayer de résumer tout ce qui se passe, parce qu'on va aller rejoindre un ancien vétéran des Forces armées canadiennes, consultant en sécurité et défense. On a commencé à jaser avec lui la semaine dernière concernant la situation à Cuba. Mais là, on va regarder ce qui se passe au Mexique aujourd'hui avec Éric Sauvé. Salut Éric, comment ça va?
Oui, bonjour Denis, ça va bien?
Oui, ça va. Mon Dieu Seigneur, pour les 2-3 destinations vacances soleil qui restent dans le monde, les prix vont monter pas pire dans les prochains jours.
Hein? Oui, bien c'est ça. Il y a des gens qui se sont rabattus sur le Mexique parce que Cuba, ça ne fonctionne plus. Le Venezuela, ça n'a jamais été une option, mais ouais. Je veux dire, ça brasse beaucoup dans le secteur, effectivement.
C'était qui ça, El Mancho?
Mais El Mancho, dans le fond, c'était un des plus gros kingpins de la drogue au Mexique. Fait que tout le monde connaît le nom de Pablo Escobar, je crois qu'il était le dirigeant du cartel de la Colombie dans les années 90. On a eu El Chapo qui a été arrêté, qui est passé en procès à New York. Il y a eu El Mayo, fait qu'ils ont tous des surnoms. Puis mm-hmm. El Mancho, c'était le dernier en lice. Puis c'est vraiment une grosse prise parce que c'était le boss du cartel de Jalisco Nouvelle Génération. Un cartel qui n'est pas nécessairement très, très vieux, mais reconnu pour sa violence extrême. C'était un des rivaux du cartel de Sinaloa qui était très connu. Et puis là, El Mancho, c'était vraiment le dirigeant de la drogue, fentanyl, méthamphétamine, etc. En fait, il se spécialisait dans beaucoup de domaines, effectivement.
Puis c'est un cartel, si j'ai bien compris, qui avait une réelle puissance militaire. Ils ont beaucoup d'armes.
Ils ont énormément d'armes. Premièrement, ils ont 15 000 à 20 000 personnes. Ils ont regroupé, dans le fond, 92 petits groupes. Mais il y avait des véhicules blindés artisanaux, des drones, des mines. Il y avait même leur propre fabrique d'armement. Il y avait des lance-roquettes. Ils ont déjà abattu un hélicoptère de la police. Et quand je dis qu'ils étaient violents, ils avaient même fait une attaque à Mexico City en 2020 pour tuer le ministre de la Sécurité publique. Ça ne s'est pas passé comme ils voulaient, mais ils étaient quand même très, très audacieux comme groupe, reconnus pour leur violence. Puis ce qui est particulier dans le domaine des cartels, c'est que les cartels n'ont pas été toujours dans l'ultra-violence comme ça. Il y avait les cartels des sept as qu'on a connus dans les années 90. Puis, quand le cartel de Jalisco a été créé, il s'appelait Mata Setas, en espagnol, qui veut dire « on tue les Setas ». Fait que, dans le fond, ils étaient en compétition contre les plus violents, puis ils ont adopté leur même tactique par la suite.
Là, pourquoi la mort de El Mancho amène autant de violence? C'est-tu sa gang qui fait un statement pour faire peur aux autorités? Ah ben, c'est les autres cartels qui brassent autour puis qui essayent de prendre du terrain. Qu'est-ce qui se passe présentement?
Bien, il y a certainement un peu de tout ça. Il faut comprendre que les cartels, c'est le crime organisé. Puis le crime organisé essaye d'opérer sous le radar tout le temps. Donc, de ne pas faire de violence énorme comme ils font là. Mais là, le message, c'est « vous avez pris notre chef, on est extrêmement fort, on est très bien armé, on fait du grabuge ». Fait qu'ils l'ont fait dans plusieurs États, ça a été vraiment à très grande échelle. Maintenant, on comprend que ça s'est calmé, peut-être parce que le groupe a fait son statement, justement. Mais il va sûrement y avoir des luttes intestines, à savoir, parce qu'il n'y a pas des plans de succession dans ces cartels-là. Hein. C'est beaucoup d'argent, c'est des milliards. Puis là, c'est qui va être le plus violent pour pouvoir prendre le contrôle du gros cartel. C'est ça qui se passe en ce moment.
OK, c'est ça la game. C'est qui est le plus violent, puis c'est lui le chef.
Mais en ce moment, tu sais, un peu comme moi, je me suis déployé en Afghanistan, OK? Puis quand tu as des grosses armes en Afghanistan, quand tu as des Stingers pour abattre des avions, tu deviens comme un chef avec plus de prestige. Fait qu'en ce moment, là, tu sais, ces gens-là ont beaucoup d'armement, ils ont fait de la démonstration. Puis celui qui est peut-être le plus violent va probablement être celui qui va prendre la tête. Puis quand je parle le plus violent, ben, un peu comme la mafia italienne, ben, on élimine nos opposants, tu sais. Il va y avoir sûrement quelques narcotrafiquants qui vont passer par l'Église pendant les prochains jours.
Oui. Éric, le gouvernement, ça les place dans une drôle de position. Puis pour faire un grand coup comme celui-là, est-ce qu'ils ont agi de leur propre initiative ou c'est vraiment des pressions étrangères, entre autres, évidemment, Donald Trump, qui ont fait en sorte qu'ils se sont sentis forcés de brasser la marmite comme ça?
Bien, c'est certain que la pression de Trump, elle est derrière ça. Puis aussi, la stratégie américaine, c'est toujours d'aller chercher un trophée, c'est-à-dire d'aller frapper la tête. Puis ça, c'est pas la stratégie mexicaine, parce que les Mexicains comprennent bien que les cartels, c'est comme des hydres à plusieurs têtes, puis que quand t'en coupes une, il y en a une qui repousse. Mais les Américains demandent des noms comme El Chapo, El Mayo, El Mancho. Ça fait des beaux trophées politiquement. Ouais. Ça ne veut pas dire que le problème est réglé. Puis la flambée de violence, on l'a vu après la mort, après que El Chapo est arrêté, il y a eu beaucoup plus de meurtres dans ces régions-là. Parce que justement, il y a un power vacuum qui se crée, puis il y a des gens qui veulent prendre la tête, puis en se faisant, ben c'est comme un peu les guerres, c'est un peu comme les Hells Angels puis les Rock Machines il y a quelques années.
Ben oui.
C'est exactement la même chose.
On l'a nommé un peu d'entrée de jeu, Éric, mais les impacts pour les Canadiens qui voyagent au Mexique en ce moment, là, faut-tu paniquer, faut-tu tout annuler, c'est quoi, comment on fait ça, là, parce qu'on a plusieurs des éditeurs puis des gens autour de nous qui s'étaient justement
redirigés. Je pars dans deux semaines, puis ouais, c'est
et
ça.
On a accumulé ça depuis 2 ans, les temps sont durs, on s'en allait, là, qu'est-ce qu'on fait?
Mais en ce moment, il faut vraiment écouter Affaires mondiales Canada. C'est eux qui décident vraiment, qui donnent les directions. Mais il y a aussi des vols qui ont été annulés. J'entends qu'il y a des vols qui reprennent.
Oui.
C'est certain que si vous avez le choix, évitez la côte ouest du Mexique. Par contre, la côte est, je suis allé régulièrement dans le Yucatan. Il y en a sûrement qui connaissent beaucoup Cancun et tout, Riviera Maya.
Mm-hmm.
C'est pas étendu à ce point-là non plus. Cependant, si vous allez sur la côte ouest, si vous devez y aller puis votre vol est encore bon... évidemment, les recommandations, c'est de ne pas sortir de la zone hôtelière de Puerto Vallarta. Parce que les cartels ont infiltré les hôtels aussi, puis ils ne veulent pas non plus faire tomber le tourisme. Fait que s'il y a des touristes qui sont frappés, c'est souvent des dommages collatéraux. Parce qu'ils ne veulent pas faire de mal à la zone hôtelière, ils ne veulent pas non plus se mettre toute la population à dos non plus.
Puis là, on voit que, justement, il y a des vols qui reprennent et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut s'attendre à une accalmie puis le message est passé ou la violence mexicaine et les montées de violence suite à des gestes comme ceux-là, ça demeure imprévisible?
Bien, il y a déjà eu des montées de violence par le passé quand des chefs ont été justement kidnappés, enlevés, tués. Mais... en général, ça ne dure pas longtemps. Puis le message hier était très, très clair. Je veux dire, ça a fait le tour du monde complètement. On aurait dit que le Mexique était à feu et à sang quand on sait très bien que c'était très localisé.
Mm-hmm.
Je pense que le message est clair. Puis je pense que ces groupes-là ont tout avantage de redescendre sous le radar. En ce moment-ci, ceux qui sont le plus en danger, c'est toujours les juges, les politiciens, les maires, les forces de l'ordre. Parce que eux, s'ils ne mangent pas dans la main des cartels, ben ils sont ciblés par les cartels régulièrement.
Éric, je veux reprendre ton parallèle avec les Rock Machines et les Hells Angels. Là, c'est comme si le président des Rock Machines avait été exécuté. À partir de ce moment-là, ça veut-tu dire que les Hells Angels du Mexique vont faire table rase sur le reste de la distribution de la drogue et ainsi de suite? C'est-tu ça qui va arriver dans les prochains mois?
Bien, comme j'ai mentionné, c'était un ennemi des cartels, du cartel de Sinaloa, qui est un très gros cartel, qui est dans la même région, parce qu'il y a comme 4 États, dans le fond, qui sont les points névralgiques. C'est certain que le cartel de Sinaloa, en ce moment, est en train d'étendre ses tentacules pour reprendre le contrôle. Parce que ces gens-là, ils sont, oui, dans la drogue, comme la cocaïne, l'héroïne, mais ils sont aussi dans les laboratoires, ils sont aussi dans les mines, ils sont dans les hôtels, ils sont dans l'extorsion des gens. Je veux dire, ils ont comme une diversification économique incroyable. Puis à partir du moment que le leadership est tombé, bien, tout ça devient un peu fair game pour les autres cartels qui voudraient peut-être s'enrichir à leur dépens, dans le fond.
Éric Sauvé, merci beaucoup. Super intéressant encore une fois.
Merci, à la prochaine.
À la prochaine. Éric Sauvé, vétéran des Forces armées canadiennes et consultant en sécurité défense. Il y a des témoignages qui commencent à se promener, entre autres un Québécois qui a été agressé par les gens des cartels qui ont volé sa moto puis qui ont mis le feu dedans.
Ben oui, hein.
C'est un gars qui en a vu d'autres, là, de ce que je comprends, là, un Québécois en vacances à Puerto Vallarta. Yves Blouin, un ancien réalisateur de Radio-Canada.
Yves Boutin.
C'est quoi?
Boutin.
Boutin?
Ouais,
ouais, j'ai dit Blouin. Hein?
Ouais.
Ouais, c'est pas ça. Yves Boutin. Ouais, c'est désolé. Ex-réalisateur chez Radio-Canada qui a suivi son instinct de documenter les événements. Puis il dit, ils m'ont pourchassé. Ils ont réussi à m'arrêter. L'homme de 69 ans qui s'est retrouvé entouré de plusieurs hommes masqués. Il dit, ils m'ont frappé partout sur la tête. Ils m'ont jeté par terre. Ils criaient « Gasoline! » Et... ouais, mon accent est italien, ça marche pas.
Avec on n'est pas tout à fait là.
Ouais,
là,
ma reconstitution est impayable. Il criait essence et je ne comprenais pas ce qu'il voulait. J'ai fini par leur montrer l'endroit où mettre de l'essence sur la moto. Ils l'ont couché par terre et ils l'ont brûlé. Il a poursu de blessures sérieuses, mais ça peut traumatiser. Là. Il y a une famille mexicaine qui a vu la scène et qui ont crié à Yves Boutin de venir se mettre à l'abri. Des histoires comme ça, ça commence à sortir. Je comprends les gens d'être nerveux. Là. Je voyais tantôt Tabarnouche. Nous autres, on était supposés de partir en famille à Puerto Vallarta pour la relâche.
Hein?
Là, on est en train de repousser ça. C'est sûr que même si les vols se résument... Puis tu sais, on a tout... un niveau où on est capable de tolérer le risque. Là. Moi, j'ai aucune tolérance. Là. Des vacances, c'est des vacances. Il faut que j'aille me stresser puis regarder les nouvelles à tous les jours pour savoir si je suis en sécurité.
Ouais.
Moi, c'est pas mon genre de vacances. J'aime mieux annuler pour perdre de l'argent.
Surtout si t'as des enfants.
Hey, mon Dieu, tu dis, toi.
Mais c'est comme ma limite, elle serait surtout là. Si toi, tu veux te mettre en danger comme individu, c'est une affaire, mais en famille, j'ai pas.
Ben, les compagnies aériennes, ils font quoi dans ce... Parce que je pense qu'ils sont ouverts d'esprit, là, si tu veux. Ils t'offrent un...
Ils rapatrient.
Non, tu veux pas y aller, mettons, là.
Ah, OK, OK.
T'es dans une semaine, là, tu veux pas y aller. J'imagine, ils font, OK, on va le repousser, c'est correct.
Je vais te dire, le problème qu'on a présentement, c'est que là, t'as Cuba qui n'offre plus de destination vacances, ce qui fait en sorte que t'as déjà un paquet de monde qui se sont relocalisés au Mexique, entre autres, et en République dominicaine.
À des prix fous.
Là, on ne sait pas combien de temps la situation va perdurer. Mettons que c'est réglé, là, les vols reprennent, puis il n'y a plus de violence.
Exact.
Ils vont réussir à accommoder du monde. Mais là, présentement, le marché des vacances tout inclus, il est ultra saturé. Ce qui fait en sorte qu'avant même ce qui se passe au Mexique présentement, les prix ont monté en flèche en l'espace de quelques jours. Puis on manque justement de plages horaires puis de dates.
C'est
là.
Sûr.
Même, tu sais...
Fait que la compagnie, elle risque d'être moins smart avec toi en voulant dire
absolument.
J'aimerais ça changer d'idée ou avoir une autre opportunité pour moi. Ils vont faire, ouais, mais on sont 1200 à avoir le
c'est
même
grave.
Dossier.
Exact.
C'est plate, mais à la base, aujourd'hui, quand tu réserves, si tu prends pas le forfait flex, là, où tu peux déplacer tes dates à annuler compagnie, si tu prends la chance de ne pas être assuré en réservant tes billets, t'es dans marre.
Ouais, c'est ça.
Fait que c'est plate à dire, mais j'ai l'impression que n'importe quelle excuse n'amènera pas une compagnie.
Mais il y a pas des. Ben, il y a des règlements de compagnies aériennes, puis des. Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose qui est forcé par le gouvernement qu'ils doivent répondre aux citoyens.
Parce qu'habituellement, habituellement, ils ont le gros bout du bâton.
Mais mais là.
Tu sais, genre, oui, M. Marino, on peut vous accommoder pour 5 000 $ de plus par personne. Okay. Là, vous allez être en mesure de partir.
Non,
là.
C'est ça.
Donc, on va surveiller la situation de près. Puis si jamais vous la vivez présentement, cette situation-là, comment ça marche avec votre agence de voyage, puis comment ça marche au niveau de votre relocalisation, 418-971-1021. On s'arrête pas longtemps, on revient.
Pour joindre l'équipe.
Hey, désolé, un peu de poutine interne, 5h moins quart. Vous êtes à Boulevard, c'est Gravel dans le retour. Il y a encore de la circulation Audrey.
Sur la capitale, direction est, entre Robert Bourassa et Laurentienne, c'est toujours au ralenti ouest, hauteur Laurentienne. Quelques ralentissements dans le coin de Val-Bélair à la hauteur de l'avenue industrielle si vous êtes sur Henri IV Nord. Henri IV Sud, c'est un peu plus bas à l'approche du pont La Porte. Ça commence à ralentir à la hauteur de Quatre-Bourgeois. Et sur la 20, direction ouest, sur la rive sud, c'est surtout à la hauteur de Chemin des Îles. Pour le reste, ça va. Ça a été un lundi quand même doux, sincèrement. Là. Si vous voyez autre chose, 88-971-1021 texto.
Hey, en passant, j'ai pas eu le temps de revenir avec l'information, mais vous avez été nombreux à me rappeler à l'ordre. Je sais pas pourquoi je me suis inventé un souvenir où Wayne Gretzky gagnait une Coupe Stanley avec les Kings de Los Angeles. C'est jamais arrivé.
Bon, c'est ça, ouais.
Toutes les Coupes Stanley que Wayne a gagnées, c'est avec les Oilers.
Okay, parfait. Tu m'avais fait douter. Là.
L'année où les Kings ont passé le plus proche, c'est quand le Canadien a gagné la Coupe Stanley en 1993.
Ouais.
La dernière Coupe Stanley du Canadien et du Canada.
Oui.
Tout va bien. Donc, ouais, mais les quatre Coupes Stanley avec les Oilers, c'était quelque chose. Mais quel club pacté comme rarement un club aura été pacté dans l'histoire du hockey. Là.
C'est drôle que tu dises ça.
Mark Messier, Yari Khoury, Paul Coffey, il y avait du monde. Essa Tikkanen, t'avais Grant Fuhr puis Andy Moog qui étaient les gardiens de but. C'était incroyable.
Si tu parles des Oilers puis de l'époque de Wayne Gretzky, mais quand tu parles d'alignement pacté, c'est drôle que tu vois ça, que tu dis ça. J'ai vu passer une publication comme quoi, tu sais, évidemment, le Canada avait un gros line-up, mais on se posait des questions sur la défensive, on se posait des questions sur les goalers. Mais j'ai vu passer que Team Canada en 98.
Oui.
J'ai vu passer le line-up, mais cette année-là, ils ont terminé quatrième. Mais tu peux pas dire qu'ils ont pas choisi les bons joueurs ou qu'ils étaient pas pactés pareil. T'sais, ils ont fini quatrième parce que ben Dominique Hašek a gaulé ça à la tête, puis qu'en médaille de bronze, la Finlande les a sortis. Pis c'est ouais. ça qui est arrivé. Il y avait Martin Brodeur, Patrick Roy dans les nets. Il y avait Al McInnes, Scott Stevens, Chris Pronger, Rob Blake, Adam Foote, Raymond Bourque. Tu sais, à un moment donné, on se posait-tu la question en 98 si le Canada n'était plus la puissance mondiale en hockey?
On se l'est sûrement demandé, c'est... mais écoute, c'est... les talents étaient là. Hein?
Ouais.
C'est incroyable. Hey, on va rester, pas dans le hockey, mais on va rester dans ce qui sert au hockey. On va jaser de patinoire un peu, étant donné qu'il y a eu des informations qui ont été communiquées aujourd'hui aux citoyens de Québec. C'est Éric Courtemanche Barry, responsable des loisirs, des sports et de la vie communautaire du comité exécutif de la ville de Québec, qui est venu parler des deux patinoires qui sont fermées, qui seront fermées. Là, ouais. Est-ce que, juste avant d'aller plus loin, est-ce que le maire Marchand est en train de calquer le plan Labeaume? Quand tu as une bonne nouvelle à annoncer aux citoyens, tu y vas, puis tu l'annonces, puis tu réponds aux questions. Quand tu as une mauvaise nouvelle à annoncer aux citoyens, t'envoies quelqu'un d'autre.
Ah, je pensais que tu allais dire, tu donnes l'impression que ça va être pire que ce que ta décision va
aussi
être. Parce que ça a été 19 patinoires à être fermées, puis là, aujourd'hui, c'est 2. Évidemment, ben, 19, quand tu lisais l'actualité au complet, pas juste le grand titre, tu savais que c'était pas ça, le ouais. résultat. Ça a quand même été 5 d'annoncer, mais le résultat, la finalité, c'est 2 cette année. Fait que c'est moins pire, fait qu'on est-tu moins fâché, tu sais?
Pour l'instant, en tout cas, c'est 2 patinoires, puis je veux saluer notre journaliste Mathias Turcotte, qui est allé nous chercher des audios de cette présentation de presse-là que je retrouverai dans quelques instants, si vous me donnez quelques secondes. Peut-être nommer ouais. les deux patinoires
alors,
qui sont fermées. Là.
Parc des Essarts, du côté de Cap-Rouge, donc pour la première patinoire, on a calculé 649 visites à cet endroit. C'est une des raisons qui explique la fermeture de l'an prochain de cette patinoire-là. C'est 63% sous la moyenne. Et la patinoire la plus près du Parc des Essarts est à 1,1 km. On juge que donc ceux qui perdent leur patinoire en ont une autre.
Dans le kilomètre, je trouve que le raisonnement est bon. Moi, c'est un peu ma réflexion de départ. Je pense que n'importe quel enfant dans une belle grande ville active comme Québec devrait être à moins d'un kilomètre d'une patinoire. Ouais.
Et l'autre, c'est le parc de la Falaise. L'autre patinoire est à 750 mètres et il y a 758 visites par année. Ce qu'on parle de moyenne, c'est que pour les autres, là, en général, c'est du 2000-2500 de visites par année dans le cas de ces patinoires-là. Donc, évidemment, ils sont maintenus. L'arrondissement de Sainte-Foy-Cédric-Cap-Rouge aussi, c'est celui qui en a le plus, des patinoires extérieures avec 26 au total. C'est notamment pour ça que les autres sont moins loin. Et le couperet, donc, tombera pour ceux-là. Puis là, on voulait en fermer 5 pour faire des économies de 150 000 $, on en ferme 2, donc on n'arrive pas au montant. Donc, on coupe aussi dans les heures d'ouverture, 5 heures par semaine. Du lundi au jeudi, on ouvre une demi-heure plus tard et on ferme une demi-heure plus tôt. Même chose pour le vendredi. Et pour le dimanche soir, pour le samedi, ça reste pareil, 10h à 22h pour les heures d'ouverture. Alors, c'est la décision aujourd'hui qui a été rendue de ce côté. Puis là, tu as les différentes interventions d'Éric Courtemanche-Barry.
Oui.
Justement, comme quoi le fait que la population se soit mobilisée dans les dernières semaines, ça a pesé dans la balance.
Quand on a vu la mobilisation citoyenne, on a pris conscience, puis on avait déjà une partie de conscience, mais on a pris encore plus conscience que les patinoires ont une utilité pour les secteurs, aussi pour les écoles. Alors, on a décidé de regarder sur un autre angle, voir tourner les pierres différemment. Et là, on est venu à dire, bien, nos surveillances à 16h30, qui commençaient à 16h30 avant, c'est-tu optimal, c'est-tu nécessaire?
On dit écart, hein, en passant.
Ah, merci, je, ouais, sens, ouais, je me pose la question, fait que je veux le savoir.
Il y a un fier Carougeois là, qui vient de nous écrire. Ça, c'est les gens de Cap-Rouge. Donc, c'est écart. Je voyais que t'essayais un, t'essayais l'autre.
J'avais dit ouvertement que je ne sais pas c'est
t'es
comment
pas décidé
qu'on le dit.
Encore. Ouais. C'est écart.
D'habitude, quand il y a un joueur que je connais pas comment on le prononce, je vais le voir et j'y demande. Là, le parc, il m'a pas répondu.
C'est ça qui arrive. Hey, merci. Continuez de nous rappeler à l'ordre quand on s'égare un peu. 418-971-1021. Bravo à tous ceux qui sont montés aux barricades pour protéger leur patinoire. Moi, j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça rapide. Les gens sont encore capables de se mobiliser. Même les gens qui sont pas habitués à le faire. Tu sais, ceux qui sont pas sur des comités de protection, qui sont pas dans des centrales syndicales ou n'importe quoi, les patinoires, ça a touché beaucoup de monde en plein cœur. Oui, puis tu sais, on a vu des écoles, on a vu des professeurs, on a vu des jeunes, on a vu des parents. Il y en a qui ont vécu l'expérience aussi de l'hôtel de ville et du conseil municipal dans leur démarche. Il y en a qui sont allés remplir des pétitions, qui ont fait du porte-à-porte avec ça pour un secteur où des vieux rabougris chiolent qui a du bruit sur un terrain de football en avant de leur condo de luxe. Ça, moi, ça met un petit baume sur mon cœur de citoyen de Québec de voir que dans plusieurs secteurs, on s'est mobilisé pour sauver les patinoires. Puis tant mieux si ça a eu un, si ça a eu un impact. Maintenant, pourquoi deux patinoires dans le même secteur qui ont été coupés? Ça saisit un peu. Je veux dire, malgré le fait qu'on a des chiffres sur l'achalandage, malgré le fait... Et en passant, vous êtes de fins observateurs de l'actualité, cher public en délire de boulevard 102.1, parce qu'à 649 visites pour le parc des Écarts et à 758 visites pour le parc de la Falaise, c'est beaucoup plus de paires de patins que de nombre de cyclistes sur certaines pistes cyclables qu'on garde ouvertes à l'année longue. Chiffres à l'appui. Les explications d'Éric Courtemanche-Barry. Dans quelques instants.
C'était un quartier qui était bien desservi. Puis c'est un quartier aussi, quand on parlait d'achalandage, on parle aussi, c'est quoi le rayon des autres patinoires près? Alors, les deux patinoires qu'on ferme, ils ont chacune deux ou trois patinoires en option pour le citoyen. Dans un rayon de moins de 15 minutes à pied, à peu près. Là. Okay. Alors, c'est pas tous les quartiers qui avaient cette chance-là, on peut le dire.
Je ne l'ai pas expliqué tantôt, mais dans le temps que Régis Labeaume était maire de Québec, il était, à une certaine époque, très facile à rejoindre pour donner des entrevues, particulièrement sur le projet de Nouvelle Arena, puis pour lancer des belles opportunités, puis annoncer qu'on allait sauver le 400e de Québec, et ainsi de suite. Mais on avait remarqué au fil des années que quand il y avait une mauvaise nouvelle, une erreur de gestion, un déficit, quelque chose, c'était tout le temps quelqu'un d'autre.
Ouais.
C'était tout le temps François un tel, c'était tout le temps Steve un tel, c'était tout le temps quelqu'un d'autre. Fait que c'était rendu un running gag. On savait à l'avance, une semaine où il y avait une mauvaise nouvelle à gérer, qu'on n'aurait pas Régis Labeaume en entrevue, puis qu'il allait envoyer quelqu'un d'autre. Mm. Mais il était là pour les bonnes nouvelles, par exemple.
C'est fun d'être dans son équipe.
La journée où est-ce qu'on va inaugurer une nouvelle patinoire réfrigérée, la troisième.
Oui, parce que la deuxième, on l'a faite il y a deux semaines.
Bruno Marchand va être là.
Ouais.
Ouais, il n'enverra pas Éric Courtemanche Barry. Là.
Mais ça va être dans du Berger, d'ailleurs. La prochaine. Puis, on a déjà commencé à faire les travaux. C'est sur le bord de Robert Bourassa, ou en tout cas, on a déjà travaillé dans le coin. Puis c'était un peu ça. Je sais pas si c'est un des... Je pense pas que c'est dans l'extrait qui s'en vient, mais comme quoi, quand celle-là va rouvrir, ben on va regarder les autres patinoires extérieures proches parce qu'elles vont être peut-être dans le viseur.
J'avais quand même un peu de misère avec l'idée parce que c'était pas comme ça qu'on nous avait vendu ça, de dire, quand on parlait des 19 patinoires, là, je sais que ça, c'est plus le plan de match, puis tant mieux si c'est le cas. Mais tu sais, on ouvre une patinoire réfrigérée, on ferme 5 patinoires. Je trouvais pas que le prorata était bon. Là.
Uh-huh.
C'était pas ça le deal au départ, là, quand on a commencé à moderniser les patinoires. Pour l'instant, y a-tu d'autres fermetures de prévues pour les prochaines années? On écoute ce qu'Éric Courtemanche-Barry avait à dire au nom de la ville. Est-ce qu'on a garanti qu'il n'y aurait pas de fermeture supplémentaire dans les prochaines années?
Est-ce que l'an prochain, on fermera deux personnes à une place, mais on en ouvrira deux autres d'ailleurs parce qu'il y a un développement qui se fait? Est-ce que dans trois ans, on en aura d'autres besoins dans le secteur? Tout peut se faire. Je ne vous dirai pas aujourd'hui s'il y a fermeture ou pas. Présentement, il n'y en a pas d'envisager des fermetures pour l'an suivant.
Ouais, c'est pas une grosse garantie, hein?
Mais d'ailleurs, le commentaire d'ouvrir des nouvelles patinoires, ça aurait peut-être été pertinent de les apporter aujourd'hui. Je ne sais pas si ça a été fait ou ça n'a juste pas été rapporté, je pense pas. Mais il y a des quartiers peut-être déjà pas mal développés à Québec, peut-être plus dans d'autres villes ou municipalités en périphérie où on ouvre des nouvelles patinoires parce qu'il y a des quartiers qui poussent, mais... Il y en a, à part les patinoires réfrigérées, on n'a pas ouvert d'autres patinoires non réfrigérées, là, je pense.
Non, pense pas, effectivement. Puis Sébastien fait partie des gens insatisfaits du fait que la ville coupe au niveau des services sur les heures d'ouverture.
Ouais.
Il dit souvent, c'est en semaine que tu vas étirer ta soirée du hockey chez les plus vieux un peu, puis chez les ados, puis ainsi de suite. Là, de perdre une demi-heure du jour au lendemain, ben effectivement.
C'est une différence.
Puis on n'a pas le retour d'argent jamais là, pour ces petite coupe de service-là supplémentaire. Est-ce que le fait de fermer des patinoires va amener de l'overbooking sur les autres patinoires? Va-t-il falloir réserver comme quand on va au resto le vendredi soir?
Aux patinoires couvertes, réfrigérées.
Oui, c'est ça.
Là, il faut réserver pour ceux-là. Là.
Effectivement. Est-ce que ça va être ça aussi pour les autres patinoires extérieures? Réponse de M. Courtemanche-Barry.
En général, le secteur où est-ce qu'on a coupé les patinoires, c'est un secteur qui était sous la moyenne du reste de la ville de Québec. Dans Sainte-Foy-Sévry-Cap-Rouge, la plupart des patinoires sont sous la moyenne, des 1700 quelque chose. On prend l'année cible 2024-2025, mais on pourrait prendre le chiffre variable d'année en année. Là. Alors, c'est des patinoires qui étaient déjà, même leurs patinoires voisines sont sous la moyenne. Alors, ils sont capables d'absorber l'achalandage supplémentaire qui va arriver.
Mais qu'en gros, ce qu'il dit, c'est qu'à Sainte-Foy, il y a juste des vieux. C'est ça qu'il dit.
Oui, hein, c'est vrai. C'est... Hey, moi, si c'est à Sainte-Foy, je suis craqué bien raide à entendre dire ça, puis j'y vais à soir puis demain.
Parce que c'est l'évidence qu'on ne veut pas dire, mais qu'on sous-entend fort, fort, fort. Là. Étant donné que le monde se promène en marchette à Sainte-Foy, on n'a plus besoin de patinoire. En passant, ça fait partie des sujets qu'on va être en mesure d'aborder avec le maire Marchand qui sera en studio. C'est demain, Audrey?
Oui, demain à 16h30.
Je pensais que c'était mercredi.
Non, demain, ça arrive vite. Hein. Si vous
avez ça arrive vite. Envoyez des questions, je n'ai pas.
Mais sérieusement, si vous en avez, n'hésitez pas. 88-971-102, on les note tout le temps.
Yes. Donc, demain, 16h30, le maire Marchand. On reviendra évidemment sur les patinoires, l'information qui a circulé.
Les Jeux Olympiques.
L'information qui s'est confirmée. Tu veux parler des Jeux Olympiques?
Non,
avec,
je ne sais pas, mais je sais que ça a été le sujet de la dernière semaine et demie.
Tu veux-tu que je donne, je demande son commentaire? Tu sais, ça, hey, ça en passant, là, ça, c'est les questions que le monde haïsse, là. Tu sais, quand t'essayes de faire un petit peu de « on the side », du « off track », tu sais, du monde qui haïsse le marchand, mettons.
Oui, oui, oui.
Puis là, tu oses poser une question sur autre chose, là, que « pourquoi les déficits? »
Oui.
Pourquoi le tramway? Le tramway l'hiver? Tu sais, à un moment donné, c'est juste un bout de conversation, oui. C'est autre chose. Il y a du monde qui devient nucléaire.
C'est vrai, hein?
Comment oses-tu utiliser du temps,
okay,
pour poser des questions stupides ou complètement... On peut-tu s'amuser un peu? Mais non, j'essaie, pour vrai, j'essaie autant que faire se peut de respecter ce temps-là avec l'objectif de poser le plus grand nombre de questions possibles. Puis si...
Mais tu as-tu demandé le tramway l'hiver?
Oui, oui.
Parce que là...
Tu savais combien de fois?
Au moins 14 fois.
Ça